Il est toujours batteur, hein. Il est né en 1950 en Guadeloupe, et donc bah maintenant il vole de ses propres ailes, c'est normal, hein. À son âge, c'est logique, c'est un grand garçon. Voilà, donc nous allons écouter un extrait, et puis nous continuerons avec d'autres musiciens donc qu'on vient de découvrir, et puis un autre plus connu, et puis d'autres pas du tout connus. Voilà, c'est parti Laurent.
Thank you.
Jazz Libre, Radio Libertaire. Alors, il y a à la basse Harry Goffin, à la batterie donc Claude Vamur, que nous venons d'entendre, à la guitare Franck Curier, au saxophone Claude Pironneau. Voilà, donc c'est une musique complexe, un peu... Voilà, je pense que ça correspond très bien à l'été et au vent alizéen que nous recevons grâce à eux. Alors on continue avec de nouveau Cédric Duchemin, mais en compagnie de... j'ai un trou, c'est vraiment, ça va pas du tout ce soir... avec Michel Alibo, voilà. Et le titre s'appelle Vortex. C'est parti, lent. Jazz Libre, Radio Libertaire 89.4. Alors je suis désolé de ne pas pouvoir vous donner le nom des musiciens qui accompagnent, hormis Michel Alibo, évidemment, à la basse, que tout le monde connaît. Mais sinon, pour les autres, je ne sais pas, je n'ai pas réussi à trouver l'information. Je rappelle également qu'il y avait deux autres groupes aussi très importants aux Antilles, c'était Malavoie, notamment avec un orchestre avec beaucoup de violons, et puis Zouk Machine, évidemment, qui était l'orchestre de danse par excellence. Mais bon, en fait, ces trois orchestres ont aussi fonctionné un petit peu comme les grands orchestres du type Woody Herman pour le jazz, qui a été une école d'apprentissage pour des jeunes musiciens. Je pense notamment à Joe Lovano, qui a fait ses débuts avec Woody Herman, bon, puis d'autres, hein, comme ça. Donc voilà, ça a un peu joué le même rôle, et donc il y a une identité musicale assez particulière aux Antilles, une manière chaloupée, on va dire, de penser le rythme. Alors là, nous allons continuer avec un autre titre qui s'appelle, alors ne me demandez pas ni comment, ni pourquoi, ni même si je le prononce bien, et vous voudrez m'en excuser, le titre s'appelle Vide Bocai, et le titre est joué par Mario Canonge, que, bon, lui, nous le connaissons un peu plus en tant que pianiste. C'est parti, Laurent. Radio Libertaire 89.4. Alors nous continuons toujours avec ces musiciens venus des îles, avec un musicien alors que je ne connais pas du tout, qui s'appelle Max Hartog. Le titre s'appelle West Indies. Alors West Indies, la traduction en français est Antilles. Hein. West Indies, ce sont les Antilles. Voilà, c'est un batteur. Il est martiniquais, mais il vit à Paris. Et bien c'était la première fois que j'en ai entendu parler. Et bien écoutez, vous allez vous faire votre idée. Moi je trouve ça très intéressant. C'est parti, Laurent.
We'll be right back.
libre à Radio Libertaire 89.4. Moi, je trouve que ces musiciens mériteraient d'être un peu plus connus en métropole, comme on dit. Et on va continuer avec un autre, parce que ça, c'est très très beau, hein, mine de rien. Et si on peut être un peu soit très séduit, soit très gêné par l'aspect rythmique, il n'empêche qu'on est quand même dans de la très belle musique. Voilà, c'est... J'en reviens un petit peu à l'émission que nous avions fait avec Étienne Guéraud sur le fait que le jazz était une continuité d'une musique libre, mais avec du formel et de la beauté. Nous continuons avec un musicien qui était un bassiste contrebassiste guadeloupéen qui s'appelle Claude Atride, que je ne connais pas du tout et je ne sais pas, je ne trouverai pas les musiciens qui l'accompagnent, et le titre s'appelle « Danny Zillet ».
We'll be right back.
Jazz Libre, Radio Libertaire, 89.4, il y a eu un gremlin dans la machine. Donc, nous allons essayer de remettre les choses en ordre. Vous venez d'entendre, en réalité, Blues for Jenny de Ronald Tullet. Alors, qui est, lui, martiniquais, il est de Fort-de-France. Donc, le titre précédent que vous avez entendu, que nous pensions être de Max Hartog, en fait, est de Claude Atride, qui s'appelle Danny Zilé, donc c'est le précédent. Celui-ci, je recommence, c'est Ronald Tullet, Blues for Jenny, dont je n'ai pas non plus beaucoup d'informations sur les musiciens. Et nous allons écouter maintenant Max Hartog, West Indies. Voilà, en espérant que vous nous excuserez pour cette confusion. Voilà, la chaleur aidant, nos cerveaux se ramollissent et les machines n'en font qu'à leur tête. C'est l'anarchie, que voulez-vous. C'est parti, Laurent. Thank you. Jazz Libre, Radio Libertaire 89.4. Alors, vous pouvez retrouver l'ensemble de ces musiques sur un double album qui s'appelle Jazz Islands, et ça s'écrit Islands. Et j'en profite pour dire d'ailleurs que si les attachés de presse m'écoutent, qu'ils m'ont envoyé un dossier de presse de Thierry Fanfan, le guitariste, et malheureusement, ils n'ont oublié de m'envoyer le disque. Donc s'ils y pensent, ce serait bien qu'ils me l'envoient pour qu'on puisse le programmer à la radio. Parce que Thierry Fanfan est un musicien que nous connaissons et que nous avons également eu l'occasion de passer dans cette émission il y a déjà fort longtemps. Et donc maintenant... Et maintenant, notre feuilleton de l'été sur les traces d'Henri. Cet entretien a été réalisé par Pierre-Antoine Dubourg-Chavez, alias Mescalito, pour les bons soins de Radio Libertaire et de Jazz Lib, dans le cadre du festival Jazz Salé à la Trédité-sur-Mer dans le Morbihan, le dimanche 19 mai, jour de la Sainte-Yves. Les voyages d'Henri Texier. Épisode numéro 3.
Charlie Mingus, c'est le premier rôle qu'il a joué, c'est à l'insu de mon plein gré, comme dirait l'autre. Parce que moi, j'étais en tant que sur le versant contrebassiste. Il y avait beaucoup de gens me comparaient à Mingus, et moi, en fait, c'était pas du tout le bassiste, le contrebassiste qui me plaisait le plus à l'époque. En revanche, bon, après, j'ai appris, enfin, comment dirais-je, petit à petit, j'ai découvert le contrebassiste qui est un mec fabuleux. Un contrebassiste extraordinaire, mais il ne m'a pas influencé au départ. Là où il m'a beaucoup influencé, c'est sur la manière de mener ses groupes, sur ses compositions, et sur la façon de... comment dirais-je, de faire en sorte que les musiciens donnent l'impression qu'ils sont libres. Je dis bien, donne l'impression. Parce que, en fait, Mingus, c'était très structuré. Même si c'était foutraque, c'est l'organisation de sa musique, c'était très structuré. Et le dieu de Mingus, c'était quand même Duke Ellington. Et donc, moi, et puis c'était très extraverti, la musique, la manière dont les musiciens jouaient chez Mingus. Moi, ça m'emportait, quoi. J'ai été vraiment influencé par ce côté, cette énergie apparemment foutraque et apparemment libre, mais en fait très harmonieuse, quoi. Et puis, les musiciens, quand ils arrivaient chez Mingus aussi, quels qu'ils soient, ils jouaient pas de la même manière que quand ils jouaient dans d'autres circonstances. Donc, c'est aussi quelqu'un, même si c'était une tête de l'art, parce que c'était une tête de l'art, Mingus. Pas du tout. Hein. Non. Ni drogué, ni alcoolo. Non. Oh, c'est peut-être qu'il buvait un coup de temps en temps, mais. Non, il n'était pas alcoolique. Il n'y a pas besoin, il était déjà assez barjot comme ça. Et d'ailleurs, barjot parce que traumatisé. Hein. Parce que Mingus, c'était un noir et métis d'Amérindien aussi. D'où la relation avec le dernier album. Coucou! Les Mingus, c'est une civilisation précolombienne, les Mingus, dans le sud-ouest américain. Il y a eu les basket makers, il y a eu les fabricants de paniers, il y a eu les potiers, et il y a eu les Mingus. Et donc Charles Mingus, voilà, il était aussi indien. Et donc, tout ça a fait que là où il a grandi comme un nègre. Et il a étudié, et comme c'est arrivé à bon nombre de musiciens noirs, à Ron Carter, par exemple, à lui aussi, à Ron Carter, qui était de la génération d'après, c'est des mecs qui ont été au conservatoire, qui ont eu les premiers prix de conservatoire, et puis lorsqu'il a été question de jouer dans un orchestre symphonique, ben, il les a foutus dehors parce qu'ils étaient nègres, et puis c'est tout, quoi. C'est simple, direct, et ah non, il n'y avait pas de racisme, non, dehors, c'est tout, parce que... Mais pourquoi ? Ben parce que... Donc la ségrégation, elle existe encore, hein, faut pas croire, hein, parce que bon, on parle que de ça. Hein. Et donc en ce moment, les blacks, là, avec l'histoire de machin, là, l'autre abruti, là, les deux présidents, là, ils savent pas quoi faire, ils savent pas quoi, puisqu'ils nous foutent de deux vieux blancs, il y en a un qui est gâteux, puis l'autre qui est siphonné, tu vois, qu'est-ce que tu vas aller voter quand t'es black, pour qui? Hein? Alors, donc, du coup, là, il s'inquiète, hein, Joe Biden, hein, parce que dans toutes les universités... Là, je viens de lire un article dans Télérama, bon, on aime ou on n'aime pas Télérama, mais enfin, ils écrivent des trucs lisibles, des fois, hein, qu'on peut lire. Il y a toute une machin sur les... Et, enfin, bon, toujours est-il que Mingus, c'est là où il a commencé à devenir un peu fou, quoi. C'est-à-dire que, voilà, il a... Et puis, il avait cette... par exemple... contre le racisme, qu'il a subi évidemment, enfin, etc. C'était une personnalité très complexe et qui est né en colère et qui est mort en colère. Quoi. Et ce qui est paradoxal, c'est qu'il a été invité par Ford, le président Ford. Je sais pas si tu te rappelles de Ralph Ford, qui était un musicien de jazz lui, et qui a fait venir, un des tout premiers à faire venir un musicien de jazz à la Maison Blanche. Dont Charlie Mingus était en chaise roulante. Et donc le gars Mingus, là, c'est la seule fois où il a pleuré de joie, pratiquement, enfin, à ma connaissance, en public. Parce que c'était, pour tous ces gens-là, c'était même inimaginable de se retrouver à la Maison-Blanche. Enfin, voilà. Non, mais il a une vie extrêmement compliquée, Charlie Mingus. Mais voilà, quoi, c'est à la fois la personnalité, le chef d'orchestre, qui m'ont fasciné, et après j'ai découvert le contrebassiste qui m'a pas, ouais, il m'a influencé, mais pas plus que d'autres. Les bassistes qui m'ont influencé, Ron Carter m'a influencé quand il jouait avec Miles Davis, mais après non, il m'a pas plu, puis j'aime pas trop le personnage, mais ça c'est mon problème, hein. Scott LaFaro m'a influencé, Charlie Haddon m'a influencé, Jimmy Smith l'organiste m'a influencé. Thank you. à la main gauche sur le clavier, et il y avait ce qu'on appelle l'argamon, ce qu'on appelle le sustain, la durée des notes. Et comme il passait d'une note à l'autre en tenant la précédente, c'était extrêmement lié. Et ça, moi, ça, j'ai énormément travaillé pour avoir un son lié d'une note à l'autre, comme ça. Ce qui fait que ça installe un continuum, qui fait qu'il y a du rebond, mais aussi comme un fil qui se tend, quoi. Et ça, ça fonctionne. Ça, les batteurs, ils aiment bien. Quoi. Et c'est aussi grâce à ça, si tout d'un coup, alors là, je vends ma cam, là, et c'est aussi grâce à ça, ou comme par exemple ce soir, il n'y a pas d'instrument harmonique, la durée du son fait que il n'y a pas de, comment dirais-je, il n'y a pas de manque, oui, dans la musique. Je dis pas de trou ni de d'absence, mais de manque. Il n'y a pas de manque. Oui. Il manque rien, quoi. Alors que, ou alors si ça manque, c'est parce que j'arrête et que je choisis de le faire, de créer un manque. Ce qui aide beaucoup à porter les autres musiciens. Donc voilà, donc mais tout jeune, quand j'avais à peine commencé la contrebasse, alors quand je dis ça, c'est un an après, peut-être un an et demi après, j'ai cherché tout de suite avec des instruments plus ou moins de bonne qualité, mais j'ai eu la chance d'avoir tout de suite une très bonne contrebasse au bout d'un an ou deux. Et donc voilà. C'est le premier morceau enregistré en 75. Mais j'avais commencé à composer un petit peu avant, mais c'était pas satisfaisant parce que j'entendais des choses. Moi, je me considère pas comme un compositeur. Moi, je me considère comme un mélodiste, plus comme un mélodiste et comme un bluesman. C'est l'instrument qui m'a choisi, en fait. C'est pas moi qui l'ai choisi, parce que si j'avais dû choisir un instrument, j'aurais pas choisi la contrebasse. C'est trop gros, trop lourd, trop fragile, trop cher, trop tout, quoi. Et puis, pour se faire remarquer, maintenant, on a l'habitude, mais à l'époque, quand j'ai commencé à jouer, le contrebassiste, pour les gens, c'était un peu le mec qui faisait toum, toum, toum derrière. Personne l'écoutait. On l'entendait, mais on l'écoutait pas. Enfin, des fois, même, on l'entendait pas, parce que... Non, pas l'héritage classique. Non, c'est simplement, on l'entendait pas. Je veux dire, quand vous avez les mecs, 5 mecs qui jouent à fond la caisse, et que vous jouez acoustique, pour vous faire entendre, faut tirer sur les cordes. Hein. C'est ce que j'ai fait, c'est comme ça que j'ai commencé. Et moi, j'ai choisi tout de suite la puissance. Je me suis dit, ouais, on va m'entendre. Alors, peut-être qu'il y a des moments, mieux valu qu'on m'entende pas, parce que j'étais peut-être pas d'équerre, mais... Et je me suis dit, je participe de l'orchestre, quoi. J'allais écouter dans les clubs des contrebassistes qui jouaient très bien, que fallait m'approcher ou tendre l'oreille pour les... Et je me rendais compte que c'était beau ce qu'ils jouaient, mais que j'en profitais pas. Et donc, moi, je me suis dit, à part l'histoire de la durée du son, je me suis dit, on va m'entendre. Donc, je me suis mis à jouer comme une brute. Et on m'entendait. Pour commencer, je n'avais pas de basse électrique. C'était la contrebasse sans ampli, acoustique, c'est tout. Il y avait des basses électriques, des guitares basses. Mais... Ah oui, il y avait des guitares basses. Ça. Moi, je m'en foutais des guitares basses. J'ai joué de la contrebasse. Moi. Et donc voilà, quand j'étais tout gamin, j'avais 13, 14, 15 ans, avec un petit pote, on a passé dans Jazz Magazine et Jazzot, parce que Jazz Magazine, on lisait pas encore Jazz Magazine et Jazzot, des annonces, des petites annonces, ça existe plus, ça, si, sur Internet, bien sûr, des petites annonces pour rencontrer les musiciens, parce qu'on était, nous, là, en bas de la ville de Clichy, dans le quartier des Batignolles, là, il n'y a pas vraiment de signe de jazz, hein. Et puis, on en a rencontré, dont un contrebassiste qui essaie... Moi, je jouais du piano à l'époque. Enfin, je tapais sur un piano, j'essayais de jouer du piano, et le jeune bassiste qui était là, lui, il pensait qu'il allait faire des sous dans les surbooms, ce qui n'était pas le cas. Nous, on était passionnés, lui, il s'en foutait, donc il laissait la contrebasse, là. Et puis, un beau jour, dans l'orchestre, il y avait un mec plus âgé que nous, qui avait, je sais pas, une vingtaine d'années, 21, 22, un grand black, un antillais, André Fardin, il s'appelait, et était guitariste et vibraphoniste, et il jouait très bien du vibraphone, il jouait du vibra avec nous, c'était merveilleux, mais il avait peur de jouer en public. Il avait un autre boulot, il bossait déjà, il avait un autre boulot, et donc... Un jour, il arrive en avance, avant tous les autres, et puis il me dit, tiens, joue dans un blues en si bémol au piano, et il prend la contrebasse. Et il savait où étaient les notes sur la contrebasse, et il a joué un blues comme j'avais jamais entendu de ma vie, quoi. Parce que le mec qui était là, il faisait n'importe quoi. Dans les clubs, j'allais très peu en club, parce qu'on était trop jeunes, on pouvait pas rentrer dans les clubs, hein. Et donc, 16 ans. Et là, j'ai eu la révélation, il a joué un vrai beau blues, une vraie ligne de basse de blues, un peu comme Ray Brown. Sur cet instrument, mon petit pote qui était avec moi, avec qui j'ai tout découvert, qui s'appelle toujours Alain Tabarnouval, qui jouait du saxophone, mais de la guitare aussi. Donc il m'a dit, les quatre cordes de la contrebasse, c'est comme les quatre cordes graves de la guitare, mi, la, ré, sol. Ah, puis sur la basse du mec qui l'a laissé toujours chez moi, qui était une basse de location d'ailleurs, on a cherché le do. Parce que en musique européenne, c'est le do, quoi. On a cherché le do sur la corde de là, on l'a trouvé, puis on a collé un morceau de papier, et voilà. Et voilà. Me v'là. Les trois, je chante contrebasse, piano, et je chante aussi. Je joue des trucs, je trouve des lignes de... Moi, c'est la débrouille totale. Hein. Je veux dire, j'ai pas de studio, j'ai pas de magnéto, ou alors j'ai des petits magnétos. J'ai longtemps composé avec un Walkman. Non, ça fait marrer, mais c'est vrai. Hein. Je suis pas du tout dans le trip technique, machin, truc. Moi, je suis primitif, quoi. Et donc, je trouve... Puis je me mets au piano, je me débrouille, quoi, voilà. C'est je bricole. J'écris la musique, je fais des partoches, quoi.
Des partoches.
Oui. Mais ce soir, il y avait de la musique décrite, mais on avait aussi beaucoup de plans, de découpage de chaque composition. Parce qu'avec les textes, c'est compliqué. Si t'es pas précis, ça vire à... Tu comprends plus rien, quoi. Enfin, je veux dire, par l'auditeur... Donc c'est un gros boulot, c'est moi qui ai fait ce boulot-là, hein. Avec l'histoire de Prévert, là. C'est un énorme boulot, formidable, j'ai adoré, et je travaille toujours là-dessus, et petit à petit les choses prennent forme, moi j'entends des choses dans, j'entends des temps, oui, voilà, des fois ça vient tout seul, des fois je prends la contrebasse, je joue une série de notes, tiens, C'est pas mal ce truc-là. Et puis après, je cherche. Enfin, je ne suis pas non plus un génie, donc je cherche, je tâtonne, je recommence, je note, j'efface, je jette. Puis des fois, je trouve un truc que je trouve ça vachement bien. Et puis, je me dis, ah oui, mais ça me rappelle quelque chose. Et puis, je réécoute un peu mes disques parce que j'en suis au 25e quand même. Et donc, je me dis, ah ouais, forcément, ça me rappelle quelque chose. Alors, je trifouille, je cherche un peu, puis je me dis, bah oui, forcément, j'ai déjà fait. Donc c'est ça le problème. Le problème, c'est au bout de 25 disques. Ouais. Ou alors, des gens me disaient, mais dis donc, mais ce truc-là, où est-ce que t'as été pêché, ce truc? Je dis, je sais pas. Je sais pas, c'est la vie, quoi. Il y a Bernard Lubin, il disait, c'est la viande. Ça pénètre. Bon, évidemment, ça a à voir avec le cerveau, l'intellect, tout le bordel, mais ça pénètre. On est pénétrés, nous, les musiciens, par tout ce qu'on entend. Parce que, alors là, si on rentre là-dedans, on soigne les gens, quoi. Je veux dire, il y a des gens qui étaient bouleversés, là. Il y a une dame, une connaissance que je connais de quelques années, qui vient au concert de temps en temps, qui nous suit de loin en loin, comme ça, mais assidûment. Mais pas tous les concerts, c'est pas une groupie. Elle était là ce soir, elle pleurait. Mais des larmes de... Comment dire, c'est des larmes qui... Des larmes d'émotion, des larmes qui, en même temps, font plaisir, quoi. Enfin, ça fait du bien quand elles coulent, quoi. Mais c'est pas des larmes de soulagement. C'est des... Ah oui, on m'a dit plusieurs fois, c'est des larmes de consolation. M'a dit que la musique qu'ils avaient entendue, ça consolait. Alors là, moi, si on me dit ça, je suis super content, quoi, je veux dire.
Troisième épisode des aventures d'Henri. Je vous rappelle que cette interview a eu lieu le dimanche 19 mai, jour de la Saint-Yves, à la Trinité-sur-Mer dans le Morbihan, dans le cadre du festival Jazz Salé, et Henri se présentait en quartet. L'interview a été menée par Pierre-Antoine Dubourg-Chavez, alias Mescalito, pour les bons soins de la radio, de Radio Libertaire et de Jazz Lib en particulier. C'est à Henri Texier, fatigué, refroidi, qu'il a eu la gentillesse, l'élégance de nous donner cette interview pour que vous puissiez l'écouter dans ses aventures africaines et autres aventures musicales qui émaillent sa carrière depuis fort fort longtemps. Rendez-vous donc pour la prochaine émission sur les traces d'Henri. Radio Libertaire 89.4, eh bien, j'espère que vous avez de nouveau apprécié ce feuilleton de l'été sur les traces d'Henri. Nous allons continuer avec un magnifique double album qui vient d'être réédité, qui est ressorti il y a peu de temps. Il s'agit d'un coffret de 4 CD des sessions complètes des concerts en public au Black Hawk du Schellimann Orchestra de l'époque. Alors, avec un casting de rêve, avec notamment Joe Gordon à la trompette, le sublime Richie Kamuka au ténor, Monty Budwig à la contrebasse, qui a joué après, entre autres avec Bill Evans, Victor Feldman au piano, qui va rejoindre dans très peu de temps le groupe de Miles Davis, mais il ne va pas rester avec Miles. Malheureusement, il va faire un très bon disque qui s'appelle Seven Steps to Heaven, absolument magnifique, mais il a été appelé vers d'autres cieux plus lucratifs avec la télévision et le cinéma. Voilà, c'est un pianiste anglais qui a fait une carrière, j'allais dire, non pas météorique, mais enfin, puisqu'il a joué également avec Cannonball Adderley. Voilà, et Schellimann à la batterie, Schellimann, sublime batteur, à l'écoute d'une finesse totale, et puis qui a été bouleversé par le jeu de Tony Williams, justement dans le quintet de Miles, et qui a complètement remodifié son jeu, et dont les premiers effets, on va dire, on peut les trouver dans le disque Living Legend d'Art Pepper avec Charlie Haden et le pianiste qui va me revenir, mais bon voilà, c'est un disque magnifique également. Alors ces sessions datent de 1959, si ma mémoire ne me fait pas défaut, et donc c'est toujours pareil avec le marketing, c'est que si vous vous souvenez, j'avais fait beaucoup d'émissions sur la West Coast, et puis donc évidemment ces musiciens sont dans la catégorie West Coast, mais lorsqu'on prête l'oreille un petit peu plus, eh bien on s'aperçoit que la West Coast, c'était juste un terme comme ça, mais les mecs ils jouaient vraiment, quoi. C'est pas du tout pour rigoler. Et donc là on a les sessions complètes du 22 et 24 septembre 1959, donc au Black Hawk de San Francisco, et c'est un album, enfin, c'est un coffret indispensable, vraiment magnifique. Et puisque nous étions dans les îles, dans les Antilles, eh bien, je vous propose un titre absolument génial pour ça, qui s'appelle Poinciana, qui a été immortalisé par le fameux disque en trio d'Ahmad Jamal avec Vernel Fournier et qui est absolument incroyable, qui a été aussi enregistré à San Francisco. Et donc, c'est un thème de Nat Simone et Buddy Bernier, et ils le prennent alors pas du tout de manière très cool et très laid-back, comme l'a fait Ahmad Jamal. Non, pas du tout. Là, ils y vont à fond, de façon plutôt boppers. Et donc, c'est pour ça que ce coffret est important, parce que ça nous permet de mettre à la fois de refixer un petit peu les choses par rapport au terme de West Coast, qui est un peu usurpé à mon sens, parce que les musiciens jouaient, on a catégorisé cette musique comme étant un peu froide, un peu trop technique, un peu ci, un peu ça, alors qu'en fait leur véritable inspiration c'était Lester Young, il faut pas, voilà, donc Lester Young qui est tout le contraire de tout ça. Mais bon, c'était des musiciens qui travaillaient également pour la télévision et le cinéma, donc outre le fait qu'ils étaient assez riches et qu'ils pouvaient se permettre de faire ce qu'ils voulaient, notamment Schellimann a créé son propre club, et ils permettent de mettre une autre vision des choses à l'instant T. Et donc 1959, eh bien le jazz moderne est en train d'exploser. Alors on n'est pas encore dans la modalité comme ça va arriver avec le Kind of Blue, ni même l'éclatement complet de tout avec Ornette Coleman, qui est à peu près date de la même époque, mais on n'est vraiment plus du tout dans la même vision des choses que pouvait être, entre guillemets, caricatural de la West Coast. Voilà, donc nous allons écouter cette version de Poinciana, et si nous avons le temps, nous écouterons encore autre chose. Donc, complete live at the Black Hawk, Schellimann and his men, et c'est indispensable. C'est parti, Laurent. Thank you.
Thank you.
Jazz Libre, Radio Libertaire, 89.4. Alors, j'ai dit une bêtise. Évidemment, la version de d'Ahmad Jamal, qui est très célèbre, a été enregistrée au club Pershing à Chicago, 1958. Hein, donc voilà. Et j'ai retrouvé le nom du pianiste dans le magnifique album d'Art Pepper, Living Legend, qui s'appelle évidemment Hampton Oz. Voilà, c'était une... Il fallait rectifier. Alors, juste quand même quelques mots sur les musiciens de ce coffret qui est indispensable. Ils sont tous morts. Hein. Shelly Manne était né en 1920, il est mort en 84. Joe Gordon, il était né en 28 et malheureusement, il est mort dans un incendie en 63. 63, date année de la fermeture du Black Hawk, d'ailleurs. Richie Kamuka, pareil, il était né en 1930, il est mort en 77, pas vieux. Monty Budwig, à la contrebasse, était né en 26, il est mort en 92. Et Victor Feldman, qui était anglais, qui était né à Edgware, dans le Middlesex, était né en 34 et il est mort en Californie en 87. Voilà, et effectivement, comme je disais, il y avait le fameux titre, le fameux album Seven Steps to Heaven de Miles, et puis après, il a joué avec Tom Waits, avec Frank Zappa, etc., 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 etc. Voilà. J'espère que cette émission vous aura plu. Donc, dans 15 jours, la suite, dernier épisode de des aventures d'Henri. Nous reviendrons sur ce coffret de Shelly Manne and His Men parce que c'est absolument fabuleux. Et plein de nouveautés, une pluie de nouveautés de nouveautés plus ou moins récentes d'ailleurs parce que elles se sont un peu accumulées sur mon bureau. Et donc la semaine prochaine, rendez-vous pour GMC+, Gabriel, Maurice, Claude et les autres pour la suite des aventures des musiciens compositeurs français. Je pense que je continuerai encore avec Forêt. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles je voulais venir ou peut-être je panacherai avec Debussy, enfin bon voilà, il y a tellement de choses. Donc en attendant de rendez-vous avec l'émission suivante Epsilonien, quelques mesures de ce même quintet avec un thème de Benny Golson qui s'appelle Whisper Note. Voilà, bye bye Fraterni Swing, soyez forts et rendez-vous dans 15 jours pour Jazz Lib et dans une semaine pour GMC+. Laurent vous fait aussi un coucou. Bye bye. Mm-hmm.
bienvenue dans cette épidémie en double aveugle numéro 110, un exercice estival de mix de nouveautés en solitaire, puisque mon camarade Ravi n'est pas là. Je vous le disais à l'instant, pas mal de nouveautés à découvrir dans cette édition, du free jazz à l'art sonore en passant par field recording ou l'électroacoustique. Et puisqu'on est en vacances, je vous propose de l'autre côté du poste de vaquer au son de ces découvertes dont je vous donnerai le détail en fin d'émission. Pas de palabres inutiles, juste les oreilles grandes ouvertes. Vous êtes bien sur l'antenne de Radio Libertaire et c'est Epsilonia, l'émission dans laquelle la lutte se mène aussi sur le front sonore et créatif. Pour débuter, Jason Kahn et Dave Brown, Molongo. Bonne écoute.